C'est la seconde partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Merci Ludovic Piétenu. Le 10 juin dernier, il y a donc peu de temps de cela, nous recevions à ce micro Diana Filipova et Benjamin Coria pour parler de l'économie collaborative. Et vers la fin de l'émission, tous les deux, alors qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout, se sont mis d'accord pour nous conseiller vivement de recevoir un juriste spécialiste du droit du travail, Alain Supiot, pour ne pas le nommer. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour monsieur.
Rebonjour.
Et bienvenue. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation. Deux points, analyse juridique des solidarités. C'est très important, ce sous-thème de votre chaire, parce que les solidarités, on va y revenir dans le courant de cette émission. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur le travail, sur l'emploi, sur le droit du travail. On peut citer le dernier, qui est un livre que vous avez écrit avec Mireille Delmas-Marty, qui a paru cette année, il y a juste quelques semaines, Prendre la responsabilité au sérieux, un livre issu d'un colloque et édité chez Flammarion.
Donc chez PUF.
Au PUF, celui-ci. Pour dialoguer avec vous, pour vous poser des questions à nos côtés, nous avons proposé à un sociologue de nous rejoindre, c'est Patrick Saint-Golani. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris Diderot, Paris 7, auteur de Révolution précaire, au pluriel, un essai sur l'avenir de l'émancipation qui lui a paru aux éditions La Découverte, je ne me trompe pas, en 2014. Je voudrais repartir, Alain Supiot, de cette discussion avec Diana Filipova et Benjamin Coria, parce qu'ils nous disaient tous les deux, alors que nous parlions de l'économie collaborative, de l'ubérisation, etc., ils nous disaient que malgré l'effet de loupe de la loi El Khomri, le travail restait un impensé en France. Autrement dit que on était dans un certain nombre de débats, peut-être stérile, sur l'ubérisation du monde, c'est bien, c'est mal, au lieu de se demander, au fond, dans quelle société on veut vivre, au fond, quel est le travail que nous souhaitons pour le 21e siècle. Vous avez, dès 1999, écrit un rapport pour la Commission européenne, qui est d'ailleurs reparu chez Flammarion, celui-ci, dans une nouvelle édition cette année, qui s'intitule « Au-delà de l'emploi, transformation du travail et devenir du droit du travail ». Comment se fait-il qu'au-delà de ce que vous appeliez tout à l'heure l'irrespect, on soit dans cette forme d'impréparation quant au monde du travail qui est le nôtre.
Mais cette observation est très juste sur le refoulement du travail, mais ça remonte à plus loin. Je pense qu'on peut l'observer dès le développement de ce qu'on appelait l'organisation scientifique du travail dans le taylorisme, qui au fond est sous l'ombre portée d'une vision de notre rapport au monde où il y aurait des sujets entourés d'objets. Et comment penser le travail, qui est justement le point de contact des sujets et des objets? Alors on a cru régler la question sous le monde industriel en disant le travail lui-même relève d'une science particulière qui consiste à faire du travailleur, enfin de la masse des travailleurs, des engrenages qui vont obéir de façon mécanique aux impulsions qu'ils reçoivent. L'équivalent de ça dans le vocabulaire juridique, ça a été la subordination comme critère du contrat de travail. C'est intéressant, la Cour de cassation retient ce critère l'année même où sortent dans les salles les temps modernes de Chaplin au début des années 30. Bon. Donc le travail dans son contenu, dans son sens, est considéré comme hors sujet puisqu'il relève simplement de la technique et d'une science. Donc, du coup, le périmètre de la justice sociale s'est rétréci à des compensations, c'est-à-dire au terme quantitatif de l'échange. Quelle durée de travail contre quel salaire? Mais le travail lui-même n'est plus un objet. Et ceci a fait l'objet d'un consensus entre terre communiste et terre capitaliste, puisque Lénine confessait sa grande admiration pour le taylorisme et le projet était d'organiser toute l'Union soviétique sur le modèle d'une vaste usine électrique régie à la Taylor. Donc c'est dès cette époque que la question du travail a été, au fond, exclue du champ de la réflexion politique. Et il y a eu des exceptions. En France, il y a la grande œuvre de Simone Veil, par exemple. Mais chez Gramsci, on trouve aussi un certain nombre de choses. Ce qui a changé, et ce dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, c'est après la Seconde Guerre mondiale, s'est instauré progressivement une nouvelle façon de penser le rapport au travail, qui n'est plus sous l'ordre de la subordination, mais sous l'ordre de la programmation. Il faut comprendre que à un moment donné de l'histoire, la science, le droit et les institutions et l'art sont portés par un même imaginaire. L'imaginaire de l'époque industrielle, c'était celui de la physique classique, des horlogeries, de la mécanique, avec un dieu grand horloger. On s'était débarrassé de Dieu, mais on a gardé l'idée du monde comme une vaste horlogerie. À partir de la Seconde Guerre mondiale et après, c'est plutôt l'imaginaire cybernétique, c'est-à-dire d'un effacement des frontières entre l'homme, l'animal, la machine, avec l'idée que tout ça, ce sont des systèmes d'information qui réagissent en temps réel, qui doivent réagir en temps réel aux signaux qu'ils reçoivent et qui sont donc programmables pour atteindre leurs objectifs. Par exemple, je ne sais pas, moi, à France Culture, il doit bien y avoir des indicateurs pour savoir si vous donnez satisfaction ou pas. Donc c'est un schéma où, alors que dans le taylorisme, on interdisait aux gens de penser, alors c'est peut-être une blague, mais on dit même qu'à l'entrée de certains ateliers, il y avait écrit « check your brain out », donc laissez vos cerveaux dehors. À partir de ce moment, on va dire au contraire, non, il faut avoir une emprise sur les cerveaux des personnes. Alors ça apparaît à la fois dans la cybernétique et dans la révolution managériale qui est pensée dès les années 50, qui vient avant le changement technique, proprement dit. Et ça a entraîné, évidemment, une nouvelle façon de concevoir le travail, et avec des opportunités, parce qu'on peut dire, au fond, on rend dans cette organisation qui consiste à dire « je te fixe des objectifs ». Tu as une marge d'autonomie et des moyens pour les atteindre. Et ensuite, nous évaluerons la façon dont tu les as atteints et tu rétroagiras à cette évaluation. C'est le feedback, c'est les théories. On peut dire que ça rend une maîtrise au travailleur sur l'objet de son travail qui lui était dénié sous l'empire du taylorisme. Mais d'un autre côté, ça peut l'enfermer dans des systèmes de symboles quantifiés, principalement. J'ai beaucoup travaillé à cette histoire de gouvernance.
Le gouvernement par les mots.
La gouvernance, c'est tout à fait différent du gouvernement. C'est l'idée qu'il y a, parce que les gouvernants eux-mêmes sont pris dans ce forme d'action. Les dirigeants des entreprises ne sont plus des acteurs avec un temps long et des objets réalisés, mais ils doivent réagir aux signaux que la bourse leur envoie ou que les normes comptables leur envoient. Tout a été réformé en ce sens. Donc c'est une grande différence avec le monde du taylorisme où il y avait un petit nombre de dirigeants qui étaient libres de penser et une masse à qui on refusait de penser, ce qui était quand même une injustice très grande qu'on a laissé de côté. Aujourd'hui, tout le monde est pris dans ces boucles de la programmation.
Et qui plus est, on parle
emploi. Même les chercheurs avec les citations index et tout ça.
Qui plus est, on parle emploi aujourd'hui, Alain Supiot, et on ne parle plus travail. Presque le droit de l'emploi, ou le droit à l'emploi plus exactement, a remplacé le droit du travail, ce qui n'aide pas à penser le travail en lui-même. Alain Supiot.
Oui, enfin, l'emploi, ça a été le produit de ce que j'ai expliqué à l'instant, c'est-à-dire cette restriction de la justice sociale à des échanges de quantité. Et donc, je renonce à ma liberté, mais en contrepartie, j'ai de la sécurité, un minimum de sécurité économique et physique. Et c'est ce pacte fondateur, vous ne pensez plus, mais on vous assure une sécurité, qui est remis en cause depuis maintenant une trentaine d'années. Et ce modèle de l'emploi, c'est quand même, il a eu du bon quand même parce qu'il a porté des mouvements sociaux, il est le fruit de toute une histoire. Quand dans ce rapport on a dit au-delà de l'emploi, il ne s'agissait pas de dire, c'est comme si on dit aujourd'hui il faut penser le travail au-delà de la France, ça ne veut pas dire que la France doit disparaître. Simplement, au lieu de penser les questions de travail dans le cadre intellectuel et théorique de l'emploi, il faut remettre l'emploi dans un cadre plus large où l'on pense le travail et à commencer par exemple par le travail des entrepreneurs.
Patrick Singolani.
Oui, alors, bon, j'adhère tout à fait au point de vue d'Alain Supiot. En même temps, effectivement, en toile de fond, il y a la question de Bruno Trentin, à la limite, dont il a publié d'ailleurs La Cité du Travail, et je pense toute la question démocratique autour de l'enjeu du travail. Alors, il y a cette dimension effectivement de l'adhésion, on pourrait dire léniniste, qu'évoquait Alain Supiot, de l'adhésion léniniste, disons, au fordisme, au taylorisme. Il y a également toute cette transformation qui émerge aujourd'hui autour finalement des formes de monitoring, hein, puisque bon, finalement cette cette programmation, c'est aussi un mode de monitoring au fond du travailleur et des enchaînements du procès de travail à l'intérieur des organisations, et y compris, et ça me semble très important, y compris au niveau des professionnels, c'est-à-dire qu'avant, lorsque justement Alain Supiot évoquait le taylorisme, au fond on faisait travailler des OS. Aujourd'hui, cette forme de programmation et cette forme d'organisation processuelle, elle est finalement destinée aussi à des professionnels, c'est-à-dire justement, vous, Alain Supiot évoquait les enseignants, mais pensez aux infirmiers, pensez aux médecins, etc. Et au fond, ou pensez effectivement à un certain nombre de cadres à l'intérieur d'une organisation. Au fond, il y a aujourd'hui la possibilité, et il y a un élément aussi dans cette dans cette impensée du travail qui est aussi peut-être la question de la technique et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, au fond, finalement, permettent aussi des formes de monitoring extrêmement subtiles. Et notamment, il y a un sociologue nord-américain qui s'appelle Simon Heads qui a très bien montré comment, finalement, ça fait écho aux travaux d'Alain Supiot, je pense, il y a une sorte de substitution du procès à la pratique. C'est-à-dire que travailler, autrefois, c'était une pratique. Aujourd'hui, c'est être inscrit dans une processualité.
Comment, effectivement, Alain Supiot, prenez-vous, en tant que juriste et spécialiste du droit du travail, en considération les nouvelles formes de travail, les nouvelles technologies, ce qu'on appelle le nouveau salariat, l'émergence de cette ubérisation, tous les nouveaux travaux, qui sont des travaux dont on dit qu'ils sont souvent précaires ou qu'ils sont sous forme de mission? Comment le droit du travail et votre propre réflexion, puisque vous réfléchissez depuis longtemps, prend-elle en considération toutes ces nouveautés?
Oui, peut-être avant d'en venir aux nouveautés, on pourrait dire un mot de ce qui est structurel, j'allais dire presque au niveau anthropologique dans le travail. Dans le travail, c'est le lieu où l'être humain, qui est porté par un imaginaire qui peut être galopant, est confronté à la réalité de ses semblables et de la nature. Donc c'est à la fois le lieu où nous projetons les images qui nous habitent et où nous sommes amenés à mesurer leurs limites. Et donc c'est une école de la raison. Et dès qu'on touche au travail, on touche à des enjeux très importants du point de vue anthropologique. Lorsque l'on prive des portions entières des générations montantes, que ce soit dans le sud de l'Europe, dans les pays d'Afrique, de toute expérience de travail, ce qu'il y a derrière, il y a des enjeux de grande violence. Je rappelle ce qu'était la devise des Canuts de Lyon, c'était « vivre en travaillant, mourir en combattant ». Donc l'idée de la mort était présente, et aujourd'hui, les jeunes Sénégalais, qui, il y a encore une quinzaine d'années, mettaient leur espoir dans des études longues, face au constat de l'absence de toute perspective dans leur pays, qui est liée à des choix du droit commercial international et de politique de commercial. L'Europe vient d'exiger, il y a 2 ans, le démantèlement de ce qui restait des frontières commerciales. Ils ont leur devise, eux, c'est Barça ou Barzac, ce qui en Wolof veut dire Barcelone ou la mort. On retrouve cette même idée, c'est-à-dire je n'ai aucun avenir, je n'ai pas de place, je n'ai pas la possibilité de montrer, de réaliser moi-même et aux autres ce que je peux faire, et donc ce que je suis, alors je suis prêt à risquer ma vie pour ça. Il ne faut pas oublier cette dimension extrêmement importante avec on peut être surpris, enfin plus que surpris, on peut être choqué de voir que ça devrait être des objectifs politiques majeurs pour l'Europe aujourd'hui, de dire comment fait-on pour remédier à cette situation, à cette privation pour les générations montantes, au lieu de dire c'est les 3% de déficit budgétaire. Donc il y a une déconnexion avec la réalité des problèmes qui est tout à fait frappante. Maintenant, pour en venir aux nouvelles technologies, c'est très important d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce que avant d'avancer, de proposer de nouvelles règles, et c'est ça qu'on peut regretter dans le cadre de la loi El Khomri, si je puis me permettre cette incidente, c'est qu'elle est dans un univers d'entreprises qui n'existent plus, de petites entreprises ou d'entreprises qui sont entièrement indépendantes, avec un employeur qui serait souverain. Ça ne marche plus comme ça.
Ça existe encore un peu. Il y en a quand même.
Peu. La règle maintenant, enfin, si on parle des nouvelles formes d'organisation, ce sont des formes d'organisation dans lesquelles il y a des chaînes, il y a des entreprises dépendantes d'autres entreprises. Donc le modèle Fordiste d'une entreprise intégrée qui a tous les éléments de la production, a laissé place au contraire à des chaînes de production où se tissent des liens de dépendance entre les entreprises. Et toutes les questions, puisque vous évoquiez les questions de responsabilité tout à l'heure qui se posent, c'est que cette organisation en réseau de l'économie permet à celui qui est titulaire de la réalité du pouvoir ou d'une partie du pouvoir économique peut se soustraire à ses responsabilités. Donc, une des grandes questions qui aurait à se poser en dehors du travail, c'est comment on reconnecte les lieux d'exercice du pouvoir avec les lieux d'imputation de la responsabilité. Alors, s'agissant un des points importants qui vient de cette révolution technologique, et ça, c'est une chose qui a été soulignée notamment par des auteurs comme Michel Vol ou Pierre Musso, c'est que dans l'ordre industriel, la clé du pouvoir économique, c'était la détention d'un capital, de ce qu'on appelait les moyens de production dans le vocabulaire marxiste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la détention de systèmes d'information. Alors, c'est le cas visible de Uber. Mais on pourrait dire c'est aussi Apple, ça lui est égal, Apple de posséder ou de ne pas posséder les entreprises en Chine. Mais ce qu'il faut, c'est posséder la propriété intellectuelle sur les systèmes. Alors, cette nouvelle forme d'organisation... ça ouvre des perspectives émancipatrices éventuellement et aussi des risques d'enfoncement dans la réification du travail. Est sur des chemins de crête réellement.
Est-ce qu'il faut penser par exemple aux nouvelles catégories juridiques, Alain Supiot ?
Il faut certainement commencer par se débarrasser des illusions ou des cauchemars qui n'ont cessé, par exemple, l'idée le travail humain va disparaître. Bon. Ça, c'est une chose qu'on voit revenir de façon récurrente à chaque progrès technique. Le travail, tant qu'il y aura des êtres humains, le travail ne disparaîtra pas parce que c'est l'activité humaine dans cette capacité de création. Elle est. Ce qu'on peut dire, c'est que plus les machines en font, plus on peut concentrer le travail sur sa part la plus proprement humaine, c'est-à-dire sa part la plus poétique, qui n'est pas forcément des savants, mais l'attention aux personnes, ce genre de choses. Or, la tendance aujourd'hui, c'est plutôt d'utiliser ces nouvelles machines pour détruire toute autre forme de travail, de vivre dans des univers d'objets. Donc, l'idée de la fin du travail me paraît être un fantasme qu'on a vu, qui réapparaît de façon régulière. À l'inverse, l'idée que ces nouvelles formes permettraient enfin de réaliser le rêve d'un peuple de petits travailleurs indépendants, qui était le rêve du révolutionnaire français, qui n'avait jamais pensé avoir des subordonnés. C'était contraire aux idéaux de la Révolution. De même que le révolutionnaire américain, d'ailleurs, chez John Dewey, c'est l'idée des petits fermiers indépendants. Bon. Alors on se dit maintenant, ça serait peut-être possible, il y aurait ces petits chauffeurs.
Oui, on pense fin de salariat et
l'expérience montre que dans les formes actuelles de l'organisation de l'économie, ces gens-là, inévitablement, vont devoir, dans leur travail, compte tenu de la complexité de toutes ces tâches, soit se soumettre et s'inscrire dans des réseaux dont ils vont dépendre, soit devoir se faire aider par des gens qui dépendront d'eux. Donc, l'idée qu'on pourrait avoir une myriade d'individus autonomes et qui contracteraient librement... Non, la vérité, c'est le développement à tous les étages de nouvelles formes de liens de dépendance.
France Culture, la Grande Table, Caroline Brouet.
Quel travail pour demain ? C'est un très vaste sujet. Nous posons aujourd'hui la question en lui demandant son avis à Alain Supiot, qui est le professeur au Collège de France, spécialiste du droit du travail et titulaire de la chaire État social et mondialisation. Et autour de la table, pour l'interroger à nos côtés, le sociologue Patrick Singolani. C'est à vous, Patrick Singolani.
Oui, alors, je voudrais reprendre sur le paradigme hegelien, au fond, que vous aviez évoqué au début, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit effectivement de rappeler la vocation formatrice au sens vraiment fort du terme du travail, et lorsque vous évoquiez ces jeunes Africains et également la question des canuts. En même temps, ce qu'il y avait dans justement au-delà de l'emploi, c'était la question de l'activité. Et dans une certaine mesure, et la reconnaissance au fond de l'activité comme étant un lieu aussi important et dans une certaine mesure tout aussi important que le travail. Alors, ma première question, c'est peut-être que faites-vous finalement de l'activité dans ce qui d'ailleurs peut relever de formes d'autonomie beaucoup plus grandes que la question de la subordination. Que faites-vous de l'activité dans, cet enjeu hegelien de la formation et de la construction de soi, du sujet à travers son objectivation justement dans...
Mais dans le monde d'aujourd'hui, vous voulez dire?
Oui, bien sûr, bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui.
Parce que sinon, on ne va pas y arriver jusqu'à 13h27 à Supio.
Oui, il faut... Bon, nous sommes obligés de parler, de penser avec les mots d'aujourd'hui. Donc, le mot travail a pris son sens actuel de façon assez récente. Il doit beaucoup à Marx avec la notion de travail abstrait. Jusqu'au 18e, je suis désolé, je vois que Caroline n'aime pas du tout qu'on reparte dans l'histoire.
Mais enfin, mais on n'a pas le temps.
Oui, mais c'est très intéressant parce qu'on on revient à ces catégories. Il y avait ceux qui œuvraient. Et puis, il y avait le travail, c'était ce qui n'avait aucune espèce de qualification. Donc, si on part du sens du travail au sens très vaste qu'il a atteint, plutôt que d'activité, il faudrait distinguer, c'est ce qu'on essayait de faire dans ce rapport, le travail sur le marché et le travail hors marché. Et il y a des quantités de formes de travail hors marché qui sont absolument déterminantes pour la survie du marché lui-même. C'est-à-dire que... je prends un exemple qui me tient à cœur. Il y a une sorte d'obsession de vouloir envoyer les femmes des classes populaires et les hommes travailler le dimanche. Bon. Alors, qui mesure le coût que ça a en termes de désinstitution des cadres éducatifs? Qui le mesure? Si on prend une vue large du travail, on va constater qu'on ne peut pas rendre ainsi ce fantasme du travailleur disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans briser les conditions mêmes et les rythmes sociaux. C'est pour ça que nous sommes partis ici d'une conception large du travail dans laquelle il y avait, je suppose, ce que vous appelez activité.
Oui, mais dans cette conception large du travail, pardon Patrick Saint-Golani, c'est juste sur ce point-là, dans cette conception large du travail, Alain Supio, il faut bien tenir compte d'une situation aujourd'hui qui est le chômage, et vous en avez parlé tout à l'heure. Comment fait-on pour continuer de protéger les travailleurs, les acquis sociaux, ce que vous appelez les cadres éducatifs, et en même temps faire en sorte que le chômage diminue? Est-ce qu'on est obligé de poser cela en termes d'alternatives ou de priorités? Certains pensent qu'il vaut mieux avoir un travail le dimanche, même précaire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plutôt que de ne pas en avoir du tout. D'autres pensent qu'il faut privilégier les droits à l'emploi. Est-ce que les questions se posent dans ces termes-là?
Je ne crois pas. Je comprends qu'on puisse les poser dans ces termes, mais là, en amont, il y a une autre question qui est la distribution primaire des richesses. Pas la redistribution, la distribution primaire entre de la richesse entre ceux qui travaillent et en particulier l'économie de rente. On voulait vraiment faire des réformes efficaces. On pourrait revenir sur certaines, parce qu'on dit que la France est un pays qui répugne à réformer, mais si on fait la liste des réformes considérables qui sont intervenues depuis 20 ans, c'est faux. J'en prendrai une seule. On a autorisé les sociétés par action à racheter leurs propres actions. Eh bien, Bloomberg disait que entre 2009 et 2014, les rachats d'actions par les sociétés ont augmenté de 300%. C'est-à-dire que le cash flow produit par les entreprises sert aux sociétés à racheter leurs propres actions, ce qui enrichit mécaniquement les actionnaires, et que dans le même temps, l'investissement tombe. Bon, alors, si on met ces questions de côté, si on dit ça, c'est intouchable, on ne peut pas revenir sur toutes les réformes qui ont été faites au nom de la corporate governance, ou au nom du New Public Management, la distribution des richesses, c'est quelque chose dont on n'a pas à discuter, parce qu'on ne peut pas en discuter au plan national, parce que maintenant ça dépend, avec l'ouverture de frontières, on ne peut plus. Là, on ne peut plus rien dire. Si on veut penser un horizon mobilisateur pour le travail, il faut partir de cette idée d'une juste répartition des richesses. Et à partir de là, on peut penser à des nouvelles formes de solidarité. Mais nous n'en sommes pas là. Actuellement, vous avez soit d'un côté les gens qui s'agrippent, et on peut le comprendre, aux sécurités héritées de l'ère industrielle, soit ceux qui disent le dernier obstacle sur la voie du grand bond en avant, c'est le code du travail, il faut le dynamiter et nous aurons ainsi la prospérité générale, ce à quoi aucun esprit sérieux ne peut sérieusement croire.
Vous dites qu'il faut créer de nouvelles solidarités. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, dit dans un entretien au journal La Croix ce matin, la solidarité c'est de créer de l'emploi.
Oui, c'est-à-dire que l'idéologie économique qui a prospéré depuis maintenant une trentaine d'années, la solidarité est vraiment une cible. Regardez le traitement des libertés syndicales. Le droit de grève est une cible. À l'OIT, maintenant, c'est sous attaque. Il y a une crise profonde dans l'organisation internationale due à la remise en cause du droit de grève, qui a été aussi au centre de la jurisprudence de la Cour européenne. Le problème, c'est que si on démantèle, et ça c'est une chose qui a été très bien étudiée, notamment en Allemagne, que l'Union européenne entraîne ce qu'ils appellent un effet d'intégration négative. C'est-à-dire qu'elle est capable de désintégrer les solidarités nationales sans être capable de constituer des solidarités européennes. Dans un tel schéma, les solidarités ne disparaissent pas, elles se réaffirment sur d'autres bases qui sont identitaire, religieuse, nationale, ethnique. Donc la question de quelle solidarité voulons-nous dans le monde compte tenu des changements technologiques que nous avons évoqués devrait être une question centrale qui n'apparaît pas vraiment dans les débats actuels.
Patrick Singolani.
Oui, je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, en écho à ce qui était dit précédemment, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui fragmente, qu'est-ce qui aujourd'hui opacifie, sinon effectivement les modes d'organisation du capitalisme, c'est-à-dire qui aujourd'hui entraîne des mécanismes d'opacification qui sont liés d'ailleurs aux nouvelles technologies. Je pense par exemple à tout ce qui se relève des chaînes logistiques finalement à travers le monde, qui fait que finalement on peut travailler pour une entreprise sans même alors que cette entreprise est déresponsabilisée eu égard à ses travailleurs. Donc finalement, on voit très bien comment le procès même d'organisation du capitalisme à travers la possibilité de délier justement le procès de travail en le fragmentant devient un élément de perte de solidarité et de perte de lien que je crois, alors s'il y a un impensé du travail, c'est peut-être aussi un impensé de sa solidarité que je crois justement les nouveaux mouvements sociaux doivent mettre en œuvre. Et c'est parce que la solidarité, ce n'est pas un fait. C'est la grande différence peut-être avec ce que disait Marx. C'est pas le capitalisme qui nous rend solidaires. C'est finalement quelque chose de l'ordre d'une activité politique, de sujets qui tentent de se rassembler pour construire cette solidarité. Et je pense que là, il y a tout un enjeu de résistance, tout un enjeu d'expérience que, d'ailleurs, pour rebondir, puisque vous autour de l'actualité, une certaine actualité de Nuit Debout, une certaine actualité des mouvements sociaux exprime, parce que ces mouvements commencent à parler, commencent à essayer de dire des choses, eu égard à un monde que nous a rappelé Alain Supiot, à savoir un monde où effectivement il s'agit de compter, il s'agit de discipliner et de monitorer. Et je trouve que là il y a un enjeu conjoncturel tout à fait fondamental pour notre époque.
Est-ce que le droit du travail à un moment ou à un autre dans le monde d'aujourd'hui, malgré tout, Alain Supiot, aide à cesser d'opposer sans arrêt les entrepreneurs et les travailleurs. Est-ce que le droit du travail est toujours du côté des travailleurs, considérant que les entrepreneurs sont des pervers, sont des vicieux, se comportent mal avec leurs salariés? Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le monde qui vient, se dire qu'on peut travailler dans l'intérêt de tout le monde?
Ah, mais certainement. Enfin, c'est toujours une question très difficile de définir l'intérêt de tout le monde, mais c'est l'objet même des débats politiques. Mais vous parlez des entrepreneurs. C'est une forme de travail, à mes yeux, dans une conception large du travail. L'entreprise est une des formes de travail. Si je vais travailler, je peux me mettre au service d'autrui et je peux aussi fonder ma boîte. Alors, aujourd'hui, les entrepreneurs, je le disais tout à l'heure, sont placés dans le même type de gouvernance par les nombres que les salariés, avec cet effet que les entreprises sont enfermées dans un temps court, dans un court-termisme qui rend de plus en plus difficile l'action d'entreprendre, qui exige un temps long, qui n'est pas celui des marchés financiers, et d'autre part des valeurs de coopération. Pour pouvoir avoir de la compétition sur le marché, il faut de la coopération dans l'entreprise. Or, ce qu'a fait largement le nouveau management, c'est d'introduire la compétition dans le fonctionnement même des organisations. Je parle des entreprises, je pourrais parler aussi des formes du New Public Management. Il s'agit de mettre tout le monde en compétition. Et ça sape la capacité de créer du neuf pour les entreprises. Et moi, j'ai beaucoup de contacts avec des dirigeants d'entreprises assez divers. Je vous assure qu'il y en a beaucoup qui sont tout à fait conscient de ces problèmes liés au court-termisme, à la difficulté maintenant de souder des communautés de travail efficaces et d'avoir un temps long, parce que là aussi, la réforme du droit du travail, son obésité, il y a une sorte d'obsession, on s'acharne sur ce malheureux code, enfin, comme des chirurgiens fous depuis une trentaine d'années, le législateur est obsédé. Donc, je comprends qu'un petit chef d'entreprise, je dis, mais n'est pas n'est plus de cadre fixe, ça change tout le temps, il ne sait pas, le repos dominical, ça a été revu 5 ou 6 fois, l'apprentissage, ne parlons pas. Donc on aurait besoin, si on revenait à un règne de la loi, d'un cadre juridique stable qui permette d'avoir une action projetée sur le long terme avec des solidarités, notamment au niveau des entreprises.
Par exemple, vous avez travaillé à l'Insupio sur le compte personnel d'activité, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oh, j'ai pas travaillé sur le compte personnel d'activité, mais c'est bon, ça reprenait effectivement certaines idées qui étaient dans le rapport que vous évoquiez tout à l'heure au-delà de l'emploi sur l'idée de droits de tirage sociaux, c'est-à-dire de dire de la même façon que nous avons l'âge industriel a inventé la sécurité sociale, c'est-à-dire des solidarités face à des risques, c'est-à-dire des événements qu'on n'a pas choisis. Nous avons besoin dans ces politiques d'émancipation de faire jouer des solidarités pour réaliser des projets. Peuvent être des projets très modestes. Et c'est ça, les droits de tirage sociaux. C'est la possibilité, pendant une certaine période, de sortir du lien de subordination salariale pour mener à bien quelque chose qui peut être de l'ordre des activités, pour reprendre votre expression. Et c'est-à-dire que la diminution de la peine des hommes du travail contraint réouvre un champ pour des formes de travail choisies qui peuvent être liées à la formation de soi-même, l'engagement civique, les tâches familiales que j'évoquais tout à l'heure. Donc le compte d'activité est un germe en ce sens, mais il est sur la crête que je dévoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ou bien on peut se dire on va créer un petit compte bancaire pour chacun, et puis chacun se débrouille après. Donc on distribue des armes à tout le monde, et puis ensuite on dit, tirez, puis on verra qui survit. Ou bien on les adosse à des systèmes de solidarité ad hoc qui sont à inventer. Et dans le cas français, la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel, enfin il faut bien reconnaître que on est envieux quand on regarde la qualité intellectuelle du Conseil constitutionnel allemand comparé à ce qui se fait en France. Mais enfin, dans le cas de la loi de 2013 sur la sécurisation des parcours, force est de constater que pour ce qui était de la généralisation de la complémentaire santé, vraiment le Conseil constitutionnel a totalement écarté le principe de solidarité. Si on fait de même sur le compte personnel d'activité, on n'aura pas un progrès mais plutôt un recul.
Est-ce que vous, Alain Supio, vous pensez qu'il vaudrait mieux l'adosser à ce régime global de solidarité ? Autrement dit, est-ce que vous appelez de vos voeux une refonte, allez, de l'État social ? Plutôt que de dire...
Il faut tout refonder maintenant, il faut refonder l'Europe, il faut...
Oui, il y a du travail.
Vous avez raison de dire, l'État social a été un moment dans la très longue histoire de l'État, c'était quand même un moment génial, parce que c'était face au système totalitaire qui prétendait faire de l'État simplement un instrument au service de lois prétendu scientifique, ça a été une manière de restaurer une ambition démocratique, ça a été la réponse des démocraties aux défis du monde industriel, et il faut quand même tirer son chapeau devant les réalisations de l'État social. Cela dit, il est vrai que nous sommes dans un monde différent, et la question de réinventer et de redéfinir la fonction des États dans ces schémas où il y a des réseaux d'allégeances internationaux est une question centrale pour la recherche et pour la politique.
Allez, on parle travail, mais comme dirait la chanson, travailler, c'est trop dur. Ça n'est pas celle-là que vous avez choisie pour terminer l'émission, Alain Supio, mais une autre, mon cousin militaire.
Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Oh, il serait déjà au cimetière, à 2 mètres sous terre. Pauvre cadavre, simple squelette, en train de sourire comme tous les squelettes de la terre, qui n'arrête pas de sourire, le sourire de la mort, mort de misère, misère des hommes pauvres macabres. On m'appelle Monsieur Galère, on m'appelle Tonton Misère, je vis dans un quartier populaire, et nous sommes de vrais prolétaires.
Daniel Wood, chanteur camerounais. Pourquoi ce choix, Alain Supio ? Pour les paroles ?
Oui, parce que c'est une... Ça illustre assez bien ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Barcelone ou la mort, sur la situation de toute cette jeunesse des pays du Sud qui risque sa vie pour rejoindre ce qu'il pense être un Eldorado. Et pour essayer, c'est un appel au fond à à lier nos débats nationaux sur le travail avec une considération plus large de la justice de l'ordre du commerce international.
Merci Alain Supiot, le travail ne fait que commencer, si je puis dire. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Grande Table. Merci à vous Patrick Saint-Golani. Vous organisez une université d'été sur les nouvelles figures du social du 4 au 8 juillet. Ça sera l'université Paris Diderot et ouvert à tous pour ceux qui sont à Paris du 4 au 8 juillet. Merci à toute l'équipe de la Grande Table. À la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet et à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson.